Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast RCS. Dans ce podcast, nous explorons les différents éléments entourant la performance et le plaisir dans le vélo. Nous recevons des spécialistes dans différents domaines et je livre mes conseils et expériences d'entraîneurs et de cyclosportifs. Bonne écoute.
Puis un outil qui est fantastique aussi, c'est Otakam maintenant. Il suffit de taper le nom de la personne, on sait un peu où il se situe. Je regarde beaucoup les classements aussi. Et pareil, par contre, j'ai des demandes parfois de SAS prioritaire. Ouais, je ne peux pas les accepter tous.
Déjà, moi, il y a un truc tout bête, c'est que si je vais faire une course de vélo, j'ai envie d'être devant des gens et j'ai pas envie d'avoir les mêmes maillots que des gars que j'ai envie de... Ça se pérennise, quoi.
Ouais, ça fait partie effectivement du projet global. Et c'est vrai que les bénévoles, on en a besoin, parce que si on doit payer tout le monde, hein, je le rappelle que c'est quand même 200 bénévoles, bah, vos inscriptions, elles sont plus à 800 euros, je pense, qu'en dessous des 100.
C'est pas qu'il y a forcément des gens qui veulent s'en mettre plein les poches derrière, mais c'est aussi, bah, comme tu dis, qu'ils doivent s'assurer bah, déjà de vivre. Donc déjà, je vois pas pourquoi ça pose un problème qu'il y ait des gens qui veulent vivre de ces organisations-là. Et
à me rapprocher d'associations spécialisées, hein. Je pense maintenant à Christophe Tullier, ben, qui travaille sur toutes les épreuves dans les Alpes et Bannière Assistance à Lourdes. En fait, ce sont des associations professionnelles de sécurité, effectivement, que nous payons, hein, en tant que prestataire extérieur pour gérer tout ce qui est carrefour vraiment très compliqué avec beaucoup de monde, et ils arrivent vraiment avec un package.
Et bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast RCS. Alors aujourd'hui, un podcast qui va rentrer dans la rubrique cyclosportive après les deux premières interviews de coureurs avec Julien et Ken Mille qui sont à retrouver sur toute notre plateforme d'écoute. Aujourd'hui, on va discuter avec Cédric Haas, qui est organisateur des épreuves JFNY France. Donc Cédric, que j'ai eu l'occasion de rencontrer j'ai commencé de l'entraîner pour son projet améliorer ses capacités pour les épreuves cyclosportives. Et puis très rapidement, durant cette même année, ben, il s'est orienté sur les organisations des épreuves cyclosportives. Donc voilà, l'idée aujourd'hui, c'est de discuter avec lui de tout ça, de voir un petit peu comment s'est passée l'évolution des épreuves JFNY France au cours des dernières années, et de voir un petit peu la face cachée au niveau de tout ce qu'il y a derrière ces organisations qui sont de plus en plus importantes et nombreuses sur le territoire français. Donc d'abord, merci beaucoup Cédric d'être présent ce soir avec moi. Et est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs ?
Ben déjà, un grand merci de m'accueillir sur ton podcast. Ça me fait vraiment plaisir, voilà, de te voir un petit peu sur un autre sujet. Effectivement, on s'était rencontrés quand j'étais encore un cycliste un peu plus chevronné. Donc pour faire une rapide présentation, donc je suis un ancien cycliste élite des années 2000, donc où j'ai couru en DN1, DN2 et DN3 au début des années 2000 jusqu'en 2010 en fait, où à ce moment-là, ben, les choses de la vie ont fait que j'ai quitté complètement le monde du vélo. Et puis voilà, après, avec d'autres boulots, d'autres schémas familiales, et puis un jour, ben, le vélo m'a manqué. Surtout après une grosse dépression et un burn-out en 2016, alors que j'étais vendeur commercial sous pression, on va dire. Et voilà, avec un physique qui n'était plus du tout adapté à faire du vélo, limite obèse avec les 100 kilos de passé. Voilà, donc en fait, c'était le moment de me remettre un peu en question et le vélo me manquait complètement. Et du coup, voilà, j'avais des nouveaux défis en 2010. Simplement de me remettre en selle avec quelques objectifs, et je m'étais vraiment fixé sur les cyclosportives. C'est ce qui m'attirait, c'était les paysages, en fait, c'était le nombre de partants, en fait, vraiment toute cette ambiance cyclo que j'ai vraiment découvert un peu sur le tas, en fait, en étant ancien compétiteur. Et puis je suis tombé d'amour sur ces événements là et j'en faisais jusqu'à 20 par an, entre bien sûr la France, l'Espagne, l'Italie, et puis voilà, jusqu'aux États-Unis ou le Mexique, hein, où j'expliquerai un peu plus en détail JFNY. Et voilà, je suis tombé amoureux de ces épreuves. Parce qu'en tant qu'ancien compétiteur, ça me permettait de me challenger vraiment sur des gros niveaux, Parce que mine de rien, le cyclosport, le niveau augmente de plus en plus. Hein, puis on voit certaines performances et certains pros actuels. Et du coup aussi le fait que voilà, si vous êtes dans une mauvaise journée un jour, ben vous pouvez toujours finir avec un groupe. Il y a cette ambiance et du coup je m'étais vraiment fixé ça comme objectif à fond. Donc j'avais fait quelques belles perfs et, sur les étapes du Tour, sur des cyclos encore de Golazo à l'époque. Et puis bien sûr aussi celle la GFNY de New York où j'ai découvert cet événement là-bas. Et puis voilà, et puis après, la roue a tourné, les rencontres ont fait que je me suis retrouvé effectivement organisateur un petit peu complètement par hasard. Donc ça, c'est un peu positif pour FNY dans un second temps. Mais oui, j'ai fait un peu de vélo, on va dire, pendant quelques temps. Ouais.
Très bien, et ben écoute, c'est une présentation assez complète et... Et du coup, je pense qu'on peut directement parler de tes débuts donc, dans l'organisation. Donc là, c'était quoi ? C'était 2019 ?
2019, en fait. Donc moi, j'ai découvert GFNY en 2018. Ça paraît tout bête, mais j'ai recommencé le vélo en 2017 avec un physique qui n'était plus du tout adapté à faire du vélo. Donc c'était vraiment une grosse diète. Je me suis vraiment mis en selle avec tout de suite de belles performances. Mais bon, quand on est ancien compétiteur, on a peut-être des choses qui reviennent plus facilement. Et je suis tombé un jour sur une vidéo Facebook, en fait, qui présentait cette course à New York. Et je me suis dit, tiens, une fois, deux fois, trois fois. Et puis, j'avais déjà, en fait, roulé à l'époque aussi avec l'Italien qui s'appelait Riccardo Pichetta. Et je le voyais gagner cette course, en fait. Et puis, ça me semblait tellement extraordinaire que je me suis dit, allez, soyons fous. Je me suis pris l'engagement pour cette course-là qui était en mai 2018. Et j'ai emmené femmes, enfants, pour la première fois à New York avec mon vélo. Et en fait, il s'est passé, voilà, c'était mon objectif annuel. Du coup, j'ai bien performé, j'ai fait ma petite échappée. Enfin, voilà, ça c'est un autre sujet. Mais du coup, voilà, j'ai rencontré les créateurs de la marque à New York un peu par hasard. Mais voilà, pendant un an, il s'est pas passé grand-chose. Et en 2019, on m'a proposé de devenir ambassadeur de la marque GFNY un peu pour attirer du monde sur leur course parce qu'il y avait encore une course en Italie et bien sûr toutes les courses outre-Atlantique, pardon. Et voilà, j'ai reparticipé à New York, j'ai fait le Mexique, toujours de belles performances. Et en fait, comment je suis arrivé sur GFNY, c'est qu'un jour en 2019, en septembre, je m'en souviendrai toujours, j'ai le propriétaire de la marque qui me téléphone en me disant « Tiens, ils ont éventuellement un projet à Vaujany ». Alors, moi, je viens d'Alsace, hein, on est basé près de Mulhouse, au pied du Grand Ballon. Et du coup, il fallait déjà que je trouve Vaujany sur une carte, hein, parce que j'avais déjà fait pas mal de vélos là-bas, mais forcément, on n'y passe pas régulièrement, même s'il y avait la fameuse cyclo la Vaujany à l'époque, mais je ne l'avais pas faite. Et du coup, je me suis retrouvé là-bas, un peu par hasard, et puis on avait discuté, ils avaient ce projet de course en 2020 pour organiser une nouvelle cyclo sportive fin août. Et je suis tombé amoureux de cette station, de l'endroit, enfin, c'était vraiment exceptionnel. Et du coup, tout est parti de là, mais ça n'a pas forcément été évident parce que le projet, c'était quoi ? C'était d'organiser une course, alors que j'avais effectivement l'expérience en tant que cycliste, mais pas forcément en tant qu'organisateur, parce que c'est complètement différent d'ailleurs. Et du coup, voilà, au début, j'avais dit non plusieurs fois, et c'est ma femme un peu qui m'a poussé, t'es passionné par ça, tu vas y arriver. Et du coup, il y avait le choix entre rien faire avec GFNY en France, donc il se serait rien passé en fait, ou soit je prends les rênes du truc et puis on avance. Et en 2019, fin 2019, on a créé en fait un groupe pour organiser ça. Et il est arrivé ce qui est arrivé, il y a eu le Covid, hein, je faisais encore beaucoup de vélo, le Covid a un peu tout cassé aussi. Mais du coup, on a emmené ce projet à bien dans l'organisation et on a été l'une des premières cyclos organisées en 2020, malgré toutes les difficultés. Donc, c'était un début pas facile, mais je pense que ça fait aussi son charme. Et du coup, quand j'ai donné le départ de cette course, ça a été une vocation directe. Il fallait que je fasse ça. C'était une vocation que j'ai découvert avec des sensations proches de courir en compète, quoi. Et l'aventure, elle est partie de là, en fait, d'une rencontre, d'un appel et d'un défi que j'avais bien envie de surmonter. Ouais.
Hop, et, parce que à ce moment-là, il n'y avait plus d'épreuves GFNY en France. Hein. Moi, je me souviens, j'ai travaillé avec Nico Garcera en 2015, quand le Grand Fondo Ventoux était encore sous GFNY, les GFNY Mont Ventoux d'ailleurs, et après effectivement ça avait eux ils ont qui s'étaient mis dans une organisation individuelle on va dire avec leur propre enfin voilà, le, okay. leur propre nom, etc. Et puis après, du coup, il n'y en avait plus. Donc, c'est toi, vraiment toi, après, qui a, avec cette épreuve-là de Vaujany, qui a relancé GFNY en France.
Voilà, c'est un peu ça, en fait, sans forcément vouloir vraiment, à la base, créer quelque chose qu'on a fait maintenant. Hein. C'était un petit peu une activité secondaire pour moi d'organiser cet événement-là. Et effectivement, Nico avait la marque pendant 3 ans. Et comme je l'explique aussi souvent, c'est que nous, on est franchisé indépendant. Donc, on est basé en Alsace. Hein, c'est une association, GFNY France. Effectivement, elle a énormément grossi. Et puis, du coup, j'ai accepté le fait d'être dans la franchise pour différentes raisons. Et du coup, voilà, on a relancé ces épreuves en France après le succès qu'avait le Ventoux. Ça n'a pas forcément été simple au début, parce qu'il y avait le Covid, en fait, il y avait vraiment un changement dans les mentalités, il fallait tout relancer, et surtout, il fallait savoir aussi, pendant 2 ans, il n'y avait pas de voyage possible, mais en tout cas, voilà, les cyclistes étaient plus ou moins présents au début, on avait des débuts quand même relativement compliqués, en sachant qu'en étant basé en Alsace, notre premier orga, c'était à 500 km, mais grâce à la station et à l'amour que j'ai pour Vaujany maintenant, avec qui on est toujours partenaire, on a pu créer cet événement. Et puis la Vaujany avait disparu aussi, hein, la traditionnelle, la Vaujany. Et ils m'ont tout de suite demandé, écoute, on veut pas perdre cette course, on veut que tu organises les deux. Donc j'organise maintenant la Vaujany, hein, qui est tout simplement un petit peu reprise de nom de l'époque, hein, avec Cycling Classic France, en fait. Et puis du coup, voilà, on est parti là et... En 2021, on a simplement organisé ces deux événements avec l'Alpe d'Huez et la Croix de Fer. Donc, ça a été pareil, un bon succès pour nous aussi, même si les débuts étaient forcément un peu plus compliqués avec entre 200 et 300 partants. Donc, il ne fallait pas se décourager non plus. Et durant toute l'année 2021, on sentait la fin de crise, on sentait que les événements, on avait envie d'y retourner. J'ai contacté environ 700 communes et puis on a eu quelques réponses positives, beaucoup de négatives. Hein, et je crois qu'on m'a fermé 500 portes avant de me dire mon premier oui. Et on s'est retrouvé en 2022 avec un calendrier un peu fou, parce que finalement, organiser 6 événements à partir de l'Alsace, c'est pas toujours très simple. Hein. Donc en fait, on a un calendrier maintenant qui est très complet, avec Cannes dans le sud de la France. On a Villard-de-Lans dans le Vercors. On a ensuite Vaujany, hein, qui était rapidement la 3e édition. Donc c'est nos plus vieilles organisations, entre guillemets, hein, parce qu'on a maintenant 5 ans d'existence. On avait aussi l'Alsace chez nous, un projet qui me tenait à cœur depuis le début et qui est pas forcément le plus simple à organiser. C'est pas parce qu'on est à domicile que c'est simple. Donc ça a été très compliqué, mais c'est l'un de nos plus grands succès maintenant. Les Pyrénées avec Lourdes, le Tourmalet, hein, qui est un coin exceptionnel où je suis tombé amoureux le premier jour où je suis arrivé là-bas. Et voilà, la deuxième Vaujany. Et ça, c'est nos 6 événements qu'on avait du coup organisés en 2022. 2023, on a refait la même. Et entre 2022 et 2023, on a doublé le nombre d'inscriptions. Et 2023, on a un petit nouveau qui arrive maintenant dans les Hautes-Alpes, à Orcières-Merlette, avec un magnifique parcours pas très loin du lac de Serpenson qui va vraiment... faire mal aux jambes déjà, niveau sportif. On a voulu vraiment quelque chose, je pense, de sans aller dans l'ultra, en restant vraiment dans l'esprit cyclosport, quelque chose vraiment de challengeant. Et puis voilà, donc on a maintenant 7 événements en 2024, en sachant qu'on avait déjà atteint le nombre d'inscriptions qu'on avait au mois de décembre en 2022. Donc du coup, on connaît vraiment une très très grosse progression. Puis la preuve, on dépasse maintenant les 1000 inscrits à Cannes actuellement pour lancer la saison. Donc, ça fait vraiment plaisir. Et voilà pour ce projet-là. Donc, en fait, on a cherché des nouveaux lieux. On s'est battu. Mais c'est surtout la passion qui a parlé, je dirais. Puis l'envie de vouloir créer quelque chose de sympa pour les cyclistes, de pouvoir vraiment varier les parcours dans notre pays parce qu'on a un pays magnifique. J'ai beaucoup voyagé grâce au vélo à l'époque quand j'étais élite et je l'ai encore fait un peu moins, mais en tant que cyclosport, mais on a quand même une région qui fait rêver. Quand je me déplace effectivement aux États-Unis pour faire la promotion de mes courses en France, les gens rêvent aussi de la France, rêvent du Tourmalet, rêvent de l'Alpe d'Huez, rêvent même des routes alsaciennes maintenant et du Vercors. Hein. Et du coup, ça a été le challenge effectivement de développer tout ça et on arrive maintenant avec 7 événements. Et pareil, je le rappelle parce que ça nous tient en cœur, c'est des événements qu'on organise nous-mêmes à 100%. C'est notre équipe, c'est le groupe 4, c'est nos bénévoles. et c'est souvent ma famille, hein, c'est mes parents au bord de la route, c'est mes voisins, mes amis, et du coup, on se rapproche aussi, bien sûr, des associations locales qu'on soutient également pour pouvoir proposer un événement de qualité qui regroupe en moyenne 200 bénévoles sur chacun de nos événements. Donc voilà un petit peu la progression en quelques minutes de ces 5 ans. Donc non, c'était pas forcément prévu à la base, mais la passion, les rencontres, c'est souvent les rencontres, des choix à faire, et puis finalement, ben, on est avec cet événement, cette année, sur un calendrier, ben, qui va attirer cette année plus de 5800 cyclistes.
Très bien, et il y a encore un petit peu de temps pour s'inscrire. Moi, avant de rentrer, bon, tu as déjà parlé de pas mal de choses et certains points que je vais revenir avec toi. Mais c'est plus déjà, toi, en tant que... Alors, j'ai bien compris, et on a bien compris qu'effectivement, on va dire que l'appel et la discussion avec les dirigeants de GFNY ont été l'élément déclencheur dans ta motivation, dans la création de cette première épreuve. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu restes sous ce label?
Ben, en fait, quand j'ai participé la première fois à New York en 2018, en fait, j'ai une atmosphère que j'avais rencontrée, enfin que j'avais vue nulle part ailleurs. Et du coup, je suis tombé amoureux très rapidement du concept, même si, sans te le cacher, la première fois que je me suis inscrit, je me suis dit mince, j'ai mes sponsors, j'ai mes machins. Mettre le maillot, ça a été un frein complet pour moi, clairement. Et du coup, j'ai vraiment mis du temps à m'inscrire. Mais bon, je me suis dit, allez, j'essaye, on verra. Et en fait, je suis tombé amoureux du concept. Déjà, effectivement, ben, il y a le maillot, mais ça, on pourra en parler un peu plus en détail. Mais c'était vraiment une ambiance totalement différente. Et vraiment avec cet esprit compétition, loisir, en fait, vraiment regroupé dans une même organisation. Donc, c'était vraiment l'amour de l'événement à la base. Et puis, du coup, c'est aussi grâce à la marque que je me suis lancé, parce que je vais toucher aussi un mot là-dessus. Ma femme me tannait déjà depuis quelques temps parce que j'avais créé ma société qui réparait des vélos. Elle me dit « Ah, purée, tu pourras organiser des événements, je suis sûr que tu arriverais. » Et puis, elle me titillait déjà un petit peu avant que je reçoive cette proposition-là. Mais moi, je me sentais simplement pas capable, en fait. Et au final, bon, voilà, on m'a un peu poussé dedans. Mais voilà, j'ai découvert cette vocation là-dessus. Et pourquoi je reste pour l'instant, je le dis bien, hein, les choses peuvent évoluer aussi avec le temps. Hein, c'est aussi des décisions d'entrepreneur que je dois prendre. Hein. Mais en fait, on a un gros avantage avec la marque, mine de rien, c'est qu'on a une visibilité mondiale. Et on peut, quand je vois un petit peu les statistiques, hein, surtout sur tous nos événements, on a vraiment beaucoup de nationalités qui viennent. On a vraiment un pourcentage assez important, un nombre assez important de nations. Par exemple, une parenthèse par rapport à Grand Ballon, actuellement, on est à 60% d'étrangers et 29 nationalités actuellement. Donc, c'est des choses qui augmentent encore durant l'été. Et l'avantage, c'est cette visibilité qu'on a. Et je m'en suis plus encore rendu compte quand je suis allé faire mon expo en 2022 à New York pour présenter mes projets de cyclosportive aux cyclistes américains. En fait, ce qui m'a le plus touché, c'est que les gens voient, grâce à la marque, en fait, par exemple, le village où je suis né, de Tannes, où j'organise maintenant la cyclosportive Grand Ballon, hein, qui est l'une de nos plus grosses orgas. Et quand on m'en parle, on me dit, ah purée, ça me fait rêver d'aller dans les Vosges, c'est génial, Tannes, ça a l'air trop beau. Et du coup, voilà, c'est une visibilité qu'on a sous l'ouverture, en fait, sur le monde. Et je me dis que des stations comme Villars, Vaujany, et puis bien sûr Tannes chez nous, ça a quand même une visibilité assez assez importante. Et puis surtout, on a des cyclistes qui viennent du monde entier, qui vont loger quand même relativement longtemps parce que c'est des gros déplacements. Donc du coup, on a un apport touristique qui est vraiment un sacré plus pour nous organisateurs par rapport effectivement au retour qu'on fait aux villes hôtes et aux régions, quoi. Donc pour l'instant, effectivement, c'est l'amour de la marque et la visibilité mondiale qui me laisse. Okay, okay.
Très bien. On va revenir sur les maillots. C'est vrai que, et c'est la première fois que j'en parle dans ce podcast. D'ailleurs, je crois à un moment, on avait dit avec Pierre-Jean, peut-être qu'on ferait un podcast que sur ça. C'est vrai que moi, les maillots, alors pendant pas mal d'années, enfin les dernières années en tout cas, j'ai jamais voulu aller sur les épreuves où il y avait des maillots comme ça. Tout simplement parce que c'est vrai que, alors il y a le point de vue organisateur, et là tu vas nous le donner un petit peu tes raisons. Du point de vue coureur, c'est vrai que bah Déjà, moi, il y a un truc tout bête, c'est que si je vais faire une course de vélo, j'ai envie d'être devant des gens et j'ai pas envie d'avoir les mêmes maillots que des gars que j'ai envie de lâcher. Donc ça, et c'est un peu comme dans la vie, j'ai pas envie de ressembler à quelqu'un que j'ai envie de battre ou que j'aime pas forcément. Bon, bref, j'ai pas envie d'avoir point commun avec eux.
Ouais,
Ça,
c'est
c'est le
clair.
premier point. Second point, c'est vrai, et là où j'aimerais avoir vraiment une discussion, c'est quand tu fais une épreuve, que tu es en team, que tu es en club, que tu as des sponsors, effectivement, c'est le moyen de représenter ces gens-là, de représenter les couleurs, d'en faire la publicité aussi, parce que c'est vrai que les compétitions pour... Alors moi, je fais, voilà, peut-être 10, 15, 20 compétitions à l'année, donc même si sur une compète, j'ai pas mes maillots et que j'en fais pas la publicité pour mes sponsors, ou voilà, c'est pas trop grave. Après, il y a des gens, ils font que très peu d'épreuves. Et des fois, ils sont un peu réticents à partager parce qu'ils ne sont pas forcément très fans du maillot. Ou alors, ils ne s'inscrivent même pas pour cette raison-là. Et voilà, donc, quel est... alors, pour GFNY et toi, est-ce que déjà, c'est quelque chose qui est imposé? J'imagine qu'après, c'est pour vous aussi le moyen en termes de communication bah voilà, de dire aux villes, bah voilà, c'est marqué GFNY Vercors, donc il y a peut-être plus de subventions. Voilà, donne-nous un petit peu les détails de ce choix de la part de GFNY Monde. J'imagine que voilà, après, c'est eux qui... Et est-ce que tu es 100% d'accord avec cette obligation de porter un maillot qui est... Et là, c'est un bon point pour vous, qui est d'une couleur très spéciale, mais tes designs, les derniers, sont vraiment très beaux. Donc, voilà. Il y a eu
Ouais, c'est
certaines
clair.
épreuves, il y a certaines épreuves où je dirais pas les noms, mais là, les gars, là, faut arrêter, hein.
C'est un très bon point et c'est vrai que c'est un débat. D'ailleurs, pour ouvrir le débat là-dessus, je me pose peut-être 25 000 fois la question par an. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on arrête? Est-ce que le maillot est un frein? Je pense qu'au début, je reviens juste sur mon expérience personnelle par rapport au maillot. J'ai failli pas aller à New York à cause du maillot. Donc effectivement, bah, tout ce qui s'est déclenché après ici, je me suis dit, ah purée, ce maillot, ça m'embête. Effectivement, j'ai pas envie de ressembler à mon concurrent. J'ai mes sponsors. En tout cas, j'avais en plus un gros sponsor avec Canyon et même Skoda qui me filait un coup de main sur ces années-là. Et on avait ce côté fierté. Et puis moi, en tant qu'ancien compétiteur, bah, du coup, il fallait aussi un petit peu se démarquer. Donc c'est une question que je me pose encore maintenant, hein, clairement. Mais par contre, il a un avantage énorme pour nous. Tu connais un petit peu les cyclosportifs, tu participes à pas mal de cyclos. En France, on a un pays effectivement qui aime le vélo, mais dans les régions, c'est pas forcément si évident. On a les Alpes qui aiment le sport, qui investissent dans le sport, et j'ai beaucoup de plaisir à travailler d'ailleurs dans les Alpes pour ça. Dans les autres régions, c'est pas forcément évident. Et nous, ben, le principal intérêt qu'a ce maillot, effectivement, c'est avoir un support de communication énorme à vendre aux villes. Et là, bah, tu l'as clairement dit avant, c'est un très bon support à, voilà, quand je négocie avec une ville comme Cannes, qui est une grosse ville avec des événements énormes, c'est sûr que c'est un élément qui effectivement fait pencher la balance dans notre sens aussi et qui nous permet d'avoir peut-être plus de subventions, je suis pas forcément sûr. Parce que je pense que les subventions, je pourrais avoir les mêmes en organisant des beaux événements et peut-être même encore plus en attirant plus de monde. Donc il y a cet aspect-là, effectivement, pour avoir la décision à la base d'accepter une course, d'accepter d'accueillir nos bénévoles et tout ce qu'il y a autour. Parce qu'une course, c'est pas que des subventions, c'est des mairies qui vont mettre à disposition des barrières, des lieux, des logements aussi pour certains de nos bénévoles. Donc il y a plein de choses qui sont hyper importantes à rentrer là-dedans. Or, effectivement, du côté financier. Donc, ça fait vraiment pencher le poids sur la balance. Après, il y a un autre truc que je me suis rendu compte en organisant. Je ne m'en rendais pas forcément compte avant. La sécurité, la visibilité pour les signaleurs, les motards, c'est le jour et la nuit. On a une couleur qui flash, et on sait du premier coup d'œil que la personne fait partie de la course. Et même maintenant, les retours que j'ai avec les gendarmes, la police, enfin tout ce qui est vraiment collectivité et ceux qui nous aident à organiser, c'est un sacré plus de à 300 mètres, tu sais, attention, il y a les cyclistes GFNY qui arrivent. Et en fait, on a une couleur, une visibilité qui apporte vraiment une sécurité supplémentaire. pour ça. C'est vraiment un sacré plus. Et un autre point aussi qui est hyper important, c'est qu'organiser des événements, ça devient compliqué, notamment en Alsace, notamment dans les Pyrénées, ça commence aussi à devenir un peu plus complexe. Pareil dans le massif des Estérelles à Cannes, on a ce qu'on appelle le Natura 2000. Donc le Natura 2000 et des dossiers de préfecture qui sont aussi parfois très complexes, avec des gens en face qui sont vraiment très à cheval sur l'environnement. Hein. Nous, effectivement, on met tous les moyens aussi là-dessus, ça c'est clair. Mais il ne faut pas oublier qu'on reste sur route, hein, tout simplement sur la route, et des milliers de voitures, des milliers de motos passent tous les jours. Hein. Et en fait, ça peut paraître bête, mais ce maillot en fait a deux poches de côté. Et quand je présente mes dossiers Natura 2000, avec ces deux poches de côté, les gens ils sont apurés, mais voilà, ça, je sais pas, ça change les mentalités et j'ai mes acceptations un peu plus facilement. Ça fait pencher aussi un petit peu la balance. Après, c'est vrai que ça reste un débat. Ce qui me rassure, en fait, à quelque part, par rapport au maillot obligatoire, c'est qu'il y a de plus en plus d'organisateurs qui le rendent aussi obligatoire, hein, pour les raisons que j'ai un petit peu expliquées. Pareil, si un sponsor veut sponsoriser aussi nos courses, ben c'est vrai qu'il y a une très, très belle visibilité. Il y a beaucoup d'organisations aussi qui offrent le maillot à l'inscription. Par contre, je trouve...
Ça, c'est une connerie. Ça, c'est vraiment une connerie. Parce
que, en fait, il n'est pas obligatoire à porter. Moi, quand j'avais fait le tour des stations, j'ai dû faire 5-6 cyclos où effectivement, j'ai mes maillots que j'ai jamais mis. Ils sont encore emballés.
Mais oui.
Et je me dis, nous, le rendre obligatoire, ben, du coup, il sera au moins porté. Ouais. Je sais que j'ai beaucoup de cyclistes aussi, même dans mon club, qui les donne à des gamins s'ils ne veulent pas le porter. Mais ce qui est assez incroyable derrière, en fait, c'est quand j'organise un événement, par exemple, autour de Grand Ballon, autour de Vaujany, les gens roulent avec. Et effectivement, on a un côté communication qui est hyper important. Quand j'ai monsieur le maire de la ville de Tannes où j'organise, qui me dit « purée, je vois des maillots GFNY partout rouler en dehors de l'événement », en fait, ça crée un climat de confiance. Ça crée aussi des amitiés, parce qu'on a créé des amitiés aussi comme ça, où des gens maintenant viennent sur nos courses parce que tout simplement, ils ont rencontré un mec sur la route qui a le même maillot et ils ont dit « oh purée, t'as fait la course », etc. Ils sont devenus amis. En fait, ça crée vraiment une cohésion de groupe. Et au final, comment t'expliquer ? C'est que nous, compétiteurs, parce que j'en fais partie, j'ai encore cette mentalité-là aussi tous les jours dans mon job, on a cette... effectivement, on peut avoir cette réticence. Mais je remarque effectivement quand les gens partent vraiment côté loisir ou juste défi personnel avec des amis et un groupe, parce que la majorité de nos cyclistes, et je trouve ça même un petit peu malheureux parfois, ils sont pas licenciés, ils ne font pas partie de clubs, c'est vraiment des groupes d'amis, voilà, ils roulent tous les dimanches avec leurs voisins, et effectivement, eux, ils ont beaucoup de plaisir à le porter, mais ça reste effectivement un débat. Peut-être que demain, j'enlève le maillot, j'ai 3 fois plus de cyclistes,
mais... Moi, j'ai une parade à ça. C'est tout simplement, tu fais la même chose, par contre, celui qui veut prendre son maillot, il paye plus cher. Tu mets, je sais pas, vous voulez, c'est-à-dire ton inscription, elle est à 60 euros. Moi, si je veux prendre mon maillot, je dois payer 75 euros. Et c'est-à-dire, moi, je vais payer les 15 euros. J'adore ton maillot et tout ça. Mais tu vois, et toi, t'es dans... Alors après, le problème, mais bon, au moins, toi, tu fais un peu plus de chiffres. Mais voilà, après, je veux dire, comme moi, je, pendant des années, je me suis dit, tu veux pas aller, c'est leur choix, je veux dire, c'est un business. Enfin voilà, maintenant les organisations, c'est un business comme un autre. Si t'es pas content avec ça, bah tu t'es, tu vas pas à l'épreuve et voilà. Après maintenant j'ai changé un petit peu d'avis et puis pas parce que aussi tes organisations sont très belles, mais c'est vrai, je me suis toujours dit, mais pourquoi ils font pas un truc où, et tu sais quoi, tu viens ton maillot, tu payes plus cher, vous ramassez plus d'argent et je pense qu'il y a Je pense que ça attirerait pas mal de monde, parce que je connais beaucoup de monde qui ne vont pas, parce que, et moi premier, c'est pendant des années, je me suis dit, mais attendez, je fais du vélo, je suis pas une pancarte publicitaire. Alors après, tu vois, et c'est pour ça, là, c'est très très bien, t'as des arguments sur la sécurité, sur les autorisations qui sont de plus en plus compliquées à avoir pour rassurer les gens qui sont pas du milieu. Voilà, il y a plein d'arguments qui s'entendent.
Il y a un argument qui est des fois aussi un petit peu bête, hein, mais je rebondis un peu pour l'organisation. On a beaucoup de gens qui participent aussi, enfin qui participent entre guillemets, qui veulent pas payer l'inscription, mais qui se retrouvent dans les pelotons, et ça peut être souvent dangereux en termes de, il y en a énormément, hein. Et là, nous, du coup, on le voit, mais tout de suite, tu vois. Donc, on arrive à le sortir. Ouais. Parce que j'en ai même un, il y a 2 ans, qui a fait tomber un cycliste. Voilà, il n'avait rien à faire là. Et puis, au niveau des assurances, c'est aussi un peu bof. Donc, nous, ça nous facilite la vie. Après, voilà, je suis franchisé, GFNY, ça fait partie de leur concept. Donc demain, effectivement, j'arrête le maillot, je sors du concept. Donc c'est aussi une démarche un peu plus, un peu plus générale à avoir. Au niveau business, après, le maillot me coûte très cher parce qu'on le fait quand même fabriquer en Italie. Il est qualitatif. C'est pas le plus haut de gamme que vous allez trouver sur le marché, mais je pense qu'il est. J'ai beaucoup de plaisir à le porter. J'ai fait d'autres cyclos entre temps, vraiment cool la vie avec le maillot. J'étais un peu moins content du résultat. Et en fait, il y a un truc qui m'a fait tilt aussi l'année dernière, en 2023. J'étais au bord de la route aux Trois Ballons. Et donc, le maillot des Trois Ballons, en fait, ils ont donné un maillot Santini qui n'était pas obligatoire à porter. Mais en fait, j'avais l'impression, pas forcément sur les premiers, mais j'avais l'impression que 70% le portaient, en fait.
Oui, oui.
Et je me suis dit, tiens, ouais, c'est... Et en fait, on connaît une belle progression. C'est un grand avantage, je veux dire. Pareil, au bord de la route, c'est mon père, c'est ma mère, c'est mon voisin, c'est ma famille, en fait, qui me file un coup de main parce que organiser des événements, c'est très complexe. Et ils adorent quand le maillot vert, enfin, tout de suite, un maillot vert, il y a une visibilité de sécurité. Et pour moi, c'est vraiment le numéro un pour pouvoir aussi que les territoires nous accueillent, organisent les courses parce que pareil, on a une vision olympique, on a une vision de sport, on a une vision, une grande vision de l'avenir cycliste. Mais souvent, on oublie les événements amateurs. Et ça fait aussi pencher un peu la balance sur les décisions politiques. Clairement, hein, je suis transparent là-dessus. Et je pense que c'est aussi un des faits qu'on a aussi maintenant, cet événement. Une certaine fierté politique, on accueille un événement. Ah tiens, j'ai vu le maillot. Et souvent, j'ai les directeurs des offices du tourisme qui ont des photos. Ah tiens, j'ai vu un maillot de l'Ordre de inverse. C'est vrai que ça fait plaisir, ça fait tilt. Et niveau marketing, pour nous, c'est très important. Et je remondis aussi là-dessus, c'est qu'on a maintenu nos tarifs depuis le début. C'est vrai que quelqu'un qui s'inscrit rapidement à une de nos cyclos, il paye 59€ avec les frais d'inscription, ça fait 66, avec la médaille et tout compris. Ouais, ça reste raisonnable. Et je pense pouvoir maintenir le tarif sans le maillot, effectivement.
Ouais. Non, mais très bien. Ton argumentaire est très bon, Cédric.
Mais voilà, après, là où je suis ouvert au débat, c'est que j'ai été un compétiteur, j'ai failli jamais participer au GFNY à cause de ce maillot, clairement, hein. J'étais puré, j'ai pas porté un maillot vert, il me plaît pas en plus, moi je suis tout bleu, etc. Mais voilà, en fait, je suis rentré dans un autre truc, j'ai adoré l'événement, et j'ai changé un petit peu de balance. Et puis après, ce qui me rassure aussi, c'est que Nico Garcera, il fait 4500 cyclistes avec le maillot obligatoire, mais voilà, je pense qu'on a vraiment deux personnes, en fait, qui...
Ouais. Pour nous aussi, juste sans forcément parler de réseaux sociaux ou autres, de se retrouver 4 copains, 4, 5, 10, 20. Moi, si j'ai mes clients, je veux dire, je suis super fier de dire, ah ben, on va faire une course. Et sur la ligne de départ, on fait une photo, on est 20 avec le maillot RCS. Et ça, je me dis, si au bout d'un moment, si jamais il y a 20 épreuves cyclosportives et que sur les 4 où j'ai les clients, je peux plus faire ça, en fait, c'est dommage, tu vois. Et après, voilà, et c'est pour ça aussi que c'est toujours quelque chose de très... une discussion qui est ouverte. Toutes les grosses épreuves qui sont, on va dire, emblématiques, le marathonat des Dolomites, l'Odzeller, tout ça, je veux dire, si un jour ils mettent un maillot obligatoire, mais c'est la révolution.
c'est la révolution, c'est clair. L'avantage, en fait, qu'on a, nous, c'est qu'on a... Par exemple, mes événements que j'ai créés de toutes pièces, hein, je pense notamment celle en Alsace ou celle à Cannes. Comment on a commencé avec ça, en fait, voilà, je pense que on adhère pas.
Exactement.
Effectivement, après, il y a les clubs, il y a les gens, il y a toi avec les clients qui aiment se retrouver avec le maillot. Et c'est sûr que moi, par exemple, mon club support, c'est la SPDT Mulhouse. Hein. Je suis aussi dans le comité de direction de ce club-là que je soutiens toute l'année. J'organise d'ailleurs des courses en open à côté encore. Pour le club, mais ce que je veux dire, en fait, c'est vrai que même moi, la photo avec les mecs de la SPTT, ça me manque aussi. C'est clair, on leur met une chasuble, on prend la photo, et après, sur les podiums, chacun peut mettre son maillot, et puis sur les podiums, ça fait également de belles photos. Mais à l'inverse, en fait, il y a beaucoup de gens qui découvrent le vélo, qui font du vélo loisir, parce que c'est devenu un sport aussi de plus en plus, on va dire, sportivement accessible. Hein. Aller courir, c'est pas forcément évident, parce qu'il y a les articulations, mais faire du vélo, ça reste un sport qui est un sport porté, je pense vraiment un sport accessible. Et en fait, on a aussi une certaine fierté de se dire, tiens, parce que voilà, quand j'ai eu, quand j'ai eu certains champions sur au départ de la course, ça peut paraître bête, mais Stéphane Rosetto qui a fait Cannes l'année dernière, j'ai eu des gens qui étaient trop fiers d'avoir le même maillot que lui au départ, trop fiers aussi d'avoir le même maillot que le vainqueur. Et en fait, ça crée, je pense que ça crée aussi une fierté aux amateurs qui se font plaisir sur le vélo. Et en fait, ça les fait rentrer dans une communauté qui n'existe, enfin, qui ne connaissent pas, en fait, tout simplement, parce qu'ils ne font pas partie d'un club ou quoi que ce soit. Et du coup, voilà, c'est un plus.
Mais, ouais, ça crée un lien, ouais.
Il y a un lien. Par contre, voilà, c'était un frein pour moi. Je suis rentré dans ce peloton, j'ai trouvé ça extraordinaire. Mais voilà, je me pose 25 000 fois la question par an. Et je reste transparent là-dessus, je m'y pose 25 000 fois la question.
Mais en tout cas, c'est très bien. Et moi, tu vois, j'ai franchi ce pas là, bon voilà, parce que je te connaissais, je savais aussi que les épreuves étaient très bien organisées, et voilà, je veux dire, une fois, deux fois dans l'année, même s'il faut prendre un maillot, c'est pas un drame, c'est juste, si tout le monde a la même idée, au bout d'un moment, ça ferait quand même chier, mais voilà, en tout cas, ce qui est après, le plus important, c'est que on soit en sécurité sur la route, qu'il y ait des beaux parcours, que je veux dire, les gens qui, sur tes épreuves, il y a même des fois des bidons à la volée pour ceux qui n'ont pas de ravitailleur ou autre. Alors, je veux dire, voilà, c'est ça qui compte, c'est la qualité et le service après qui est rendu, la sympathie des équipes organisatrices, des speakers et tout ça. Donc voilà, c'est très cool. On va pas s'étendre plus sur le sujet pour passer aux autres. Ouais. Moi, ce que je voulais que tu nous expliques un petit peu, c'est finalement, le déroulé de toute une organisation, si on prend une épreuve, par exemple celle, je sais pas, tu nous parlais de Vaujany, bon voilà, c'est la plus ancienne. Quand est-ce que commence le travail d'organisation? Est-ce que c'est un an avant? Est-ce que c'est 6 mois? Quels sont un petit peu sans rentrer en détail dans tout, mais un peu les étapes de réflexion, de discussion aussi avec les communes sur les parcours, voilà.
Ben en fait, je vais juste faire voilà deux exemples, hein, un peu concrets. Donc on a un nouvel événement qui arrive, en fait. C'est déjà effectivement réfléchir sur le parcours. Je parle maintenant d'Orsière Merlette qui arrive maintenant en août. C'est des discussions qu'on a depuis fin 2022. Et on a lancé l'événement, donc il y a un an de mise en place déjà de discussions politiques, hein, parce que c'est clairement de la mise à disposition politique, parce que la route, ça reste un usage public, hein. Faut pas l'oublier que notre terrain de jeu, c'est pas un stade fermé où on accueille du monde en ouvrant les portes, où on est en sécurité. Non, notre terrain de jeu, c'est le domaine public. Donc il y a déjà beaucoup de discussions. Il y a les parcours. Donc faut savoir que les parcours, je les ai tous décidés moi-même, mais toujours avec l'accord des offices du tourisme et l'accord aussi des mairies, parce que les mairies, les régions, les com-com ont aussi envie de montrer des choses aux cyclistes, donc on doit travailler ensemble tout en restant dans des parcours cyclo. Donc ça, c'est effectivement un an de travail entre effectivement le premier oui, la validation de l'événement avec le parcours. Après, sur un événement qui roule par exemple comme à Vaujany, j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec Vaujany en Isère, parce qu'il y a un amour pour le vélo qui est complètement différent des autres régions. Tout simplement, ben, le sport hivernal diminue de plus en plus, il y a moins en moins de neige, et eux, ils ont ce côté sportif de par les stations. Et puis, ils savent aussi que le cyclisme est un business important pour eux durant la saison estivale, hein. Il suffit d'aller se promener aux alentours de Bourdoisan en été, on enlève les cyclistes. C'est vrai que c'est un manque à gagner touristique qui est énorme. Donc là, on va dire que les parcours, généralement, je vais les changer l'année prochaine. Donc, on les laisse 3-4 ans les mêmes. Et ça facilite un peu la chose. Donc, sur un événement qui est déjà, on va dire, récurrent, on va vraiment se pencher sur l'orga environ 8 mois à l'avance pour commencer effectivement le dossier de préfecture, pour vérifier la possibilité d'emprunter certaines routes ou non, les possibles travaux, les possibles changements qu'on doit faire aussi par rapport au retour des cyclistes, hein, parce qu'il y a des coins qui sont parfois assez dangereux. Et du coup, voilà, il y a toute cette réflexion-là. Et puis nous, on prend aussi pas mal d'avance. Donc 6 mois avant, c'est le dossier de préfecture. Ouverture des inscriptions, pareil, 8 mois avant, pardon. J'ai oublié cette étape-là qui est très, très importante. Donc sur un événement comme Vaujany, on va dire que c'est, on va dire, voilà, 8 mois de travail à fond pour l'organiser. Par contre, un événement à Cannes, sur les routes du Sud, voilà, c'est-à-dire on finit là 2022, mais je suis déjà en train de préparer 2025 actuellement. Pareil pour les Pyrénées, hein. Les Pyrénées, je travaille déjà depuis un moment dessus parce que on a beaucoup de contraintes là-bas aussi, donc on est déjà en train de préparer 2025. Donc si tu organises un événement, je dirais qu'il faut pour le lancer, minimum 2 ans. Et après, ben, c'est finalement, on en termine un, puis on recommence. C'est un éternel recommencement. Et souvent, on se dit, ben, on a tout l'hiver pour se reposer. Ben, en fait, non, parce que ça vous prend effectivement beaucoup de travail. Ouais.
Bah, surtout d'avoir tout en décalé. Tu as tous les cas une échéance à un an qui tombe sur une période, quoi. Sauf si tu n'as qu'un événement.
En tant que cycliste, on ne se rend pas compte. Mais quand tu passes de l'autre côté, oh là là, et puis là, ouais, c'est. Les démarches administratives sont énormes. Le point noir du cyclisme dans les prochaines années, ça va être les bénévoles. Et je peux te dire que c'est vraiment quelque chose.
Justement, c'était un point que je voulais. J'avais 2 points que je voulais aborder aussi avant les bénévoles. C'était déjà juste de l'aspect des villes, des stations, des communes. Toi, quand tu discutes avec eux, avec toi, l'objectif, c'est de cibler majorité, enfin, d'arriver à cibler une clientèle internationale, ou c'est aussi d'arriver à cibler et de dynamiser un petit peu aussi en local, en régional. C'est quoi un peu ? Alors, j'imagine que ça dépend. Peut-être qu'une station, effectivement, comme Vaugeny a une vision d'avoir une portée un peu plus internationale que peut-être Orcières-Merlette. Mais voilà, c'est quoi un petit peu les discussions ?
Bah, en fait, c'est un peu des deux. C'est-à-dire que pour eux, la première... Après, on a deux aspects différents. On a les stations. Donc, une station de ski, c'est un peu un fonctionnement différent d'une grande ville. Eux, c'est vraiment, effectivement, dans les discussions, c'est de ramener des cyclistes, un maximum de cyclistes, qui a de la nuitée générée, du restaurant, de la consommation locale et de la visibilité à l'international. Parce qu'effectivement, nous, grâce à la marque GFNY aussi, on a aussi une belle visibilité mondiale avec un carnet d'adresses qui est énorme et puis à travers des magazines, à travers nos supports de communication. Donc, il y a déjà, premièrement, la visibilité parce que, pour faire venir les gens, il faut déjà ça. Mais en tout cas, ça montre quelque chose d'important. Générer de l'étranger, générer effectivement du français qui va passer qu'une nuit à Vaugeny. Voilà, donc c'est créer un dynamisme touristique et faire travailler les hébergeurs, faire travailler les restaurants sans oublier les locaux. Et en fait, là on est aussi fiers de ça, c'est que cette année on a une belle progression, c'est ce qui fait augmenter nos inscriptions aussi, des cyclistes locaux qui s'inscrivent de plus en plus sur nos épreuves, parce que le local parfois il se dit « ah mais je connais ces routes, je vais pas aller là-dessus, enfin bref, voilà, je vais pas participer à un truc que je connais ». Et là en fait on arrive à les attirer pour les attirer à la fête, et pareil c'est aussi un des objectifs des communes, c'est-à-dire aussi dynamiser, montrer qu'il se passe quelque chose, et quelque chose qui reste aussi, on va dire, accessible aux cyclistes locaux, ce qui est hyper important. Donc en fait c'est un mélange entre la visibilité, les retombées touristiques. En plus, on a de la chance, on en a des très bonnes parce que les gens restent sur place quand même quelques jours. Il y a même certaines personnes qui reviennent en vacances, même des bénévoles à moi que j'ai fait découvrir Vaugeny, ils y vont régulièrement l'hiver maintenant. Et voilà, c'est vraiment un global en fait. C'est un package où il faut très bien servir le cycliste qui habite Vaugeny et qui veut peut-être un bel événement et donner envie à un Américain du Sud de venir faire une course. Ouais.
Ok. Et alors du coup, là, si on revient du côté organisation, donc sur la structuration des équipes de bénévoles, donc là, vous, il n'y a que des bénévoles, c'est-à-dire qu'il y a... Donc, comment ça se passe en fait ? Vous offrez un petit service aussi, un repas, quelque chose comme ça, mais il n'y a pas de rétribution financière. Et du coup, comment ça se passe ? Comment tu gères ? Est-ce que tu vois avec... toi, tu disais que tu avais une équipe, on va dire, de base.
Une équipe base.
Et puis après, tu t'appuies sur d'autres personnes sur place ?
Ouais, c'est ça. Donc en fait, on a... moi, j'ai mon équipe de base. On est à peu près une soixantaine qui va inclure effectivement ma famille, des amis. On est tous basés en Alsace avec aussi une grosse équipe de motards qui font régulièrement des courses, jusqu'à des courses pro chez nous dans la région. Donc en fait, c'est notre vivier. Donc c'est des gens qui sont passionnés, on est content de se retrouver. Donc eux, effectivement, ils ont un petit plus parce qu'ils ont aussi la chance de pouvoir voyager à travers la France. Et donc l'organisation, et ça fait partie de notre plus gros budget, c'est les bénévoles, parce qu'on parle souvent de bénévoles, effectivement, d'hommes de son temps, mais nous, on doit aussi les récompenser. Donc l'avantage, c'est que les gens qui viennent, par exemple, d'Alsace pour aller jusqu'à Cannes, on va défrayer le déplacement aussi, donc c'est un coût énorme pour nous. Hein. Mais voilà, ça nous fait plaisir aussi, et puis ils sont d'autant plus impliqués dans ce projet-là. Et à côté encore, on va s'appuyer sur des associations locales, tout simplement. Par exemple, un club de vélo qui vient nous aider, un club de ping-pong, un club, j'ai même par exemple à Lourdes, une super association qui font dans l'environnement, qui vont nettoyer les rivières et tout ça. Et en fait, je leur fais une redistribution sous forme de dons par rapport au nombre de bénévoles. Donc grosso modo, par exemple, les gens viennent avec 10 bénévoles, donc on leur reverse entre 300 et 350 euros à l'association. En plus de ça, il y a bien sûr le petit déjeuner, le repas, la casquette qui va bien, que les gens portent encore après, le t-shirt. Donc en fait, on essaye vraiment d'unir les bénévoles, de leur proposer un bon week-end. Et on leur organise aussi autour de chaque événement le vendredi soir une soirée qu'on appelle la soirée VIP. Tout simplement, on les accueille, on fait une grosse fête ensemble. Et du coup, on est devenu une grande famille où les gens ont plaisir à se retrouver. Puis ce qui est beau dans notre projet, c'est que maintenant, quand j'organise à Villard-de-Lans, j'ai des bénévoles de Cannes qui viennent. Quand j'organise un événement à Lourdes, j'ai des bénévoles qui viennent de Villard-de-Lans. Enfin, on a créé un truc qui est extraordinaire et ça fait aussi notre force, quoi.
Ok, super. C'est vrai que les bénévoles, comme tu le disais, c'est un point stratégique déjà dans l'organisation. Déjà d'un point de vue, juste d'un point de vue compétence. Et ça rejoint aussi un petit peu la mentalité et la difficulté de faire comprendre aux gens que une cyclo-sportive ou une organisation sportive à 80 euros ou 60 euros ou même 100 euros, c'est pas qu'il y a forcément des gens qui veulent s'en mettre plein les poches derrière, mais c'est aussi, comme tu dis, qu'ils doivent s'assurer déjà de vivre. Donc déjà, je vois pas pourquoi ça pose un problème qu'il y ait des gens qui veulent vivre de ces organisations-là et des gens qui ont envie d'être bénévoles, qui peuvent aussi avoir la compétence. Et pour pouvoir assurer la sécurité des participants, parce que c'est vrai que quand on entame une descente au fin fond du Vercors, même si c'est bien sécurisé tout ça, on est content que quand on arrive au rond-point, le signaleur il sache que les voitures elles doivent s'arrêter et que c'est pas comme dans certaines organisations j'ai vu où c'est une dame pour pas dire une mamie qui est là, qui habite au coin, mais elle a aucune idée. Et c'est vrai, je préfère payer 20 euros de plus mon inscription, mais de savoir que je suis en sécurité pour entamer une descente, pour un carrefour passer à droite, plutôt que d'avoir une cyclo-sportive organisée avec un prix un peu au rabais, mais où finalement l'organisateur n'a pas la possibilité de mettre en place des choses pour faire venir des bénévoles, pour les fédérer, juste qu'ils passent aussi un bon moment, qu'ils soient contents de revenir et que ça se pérennise, quoi.
Ouais, ça fait partie effectivement du projet global. Et c'est vrai que les bénévoles, on en a besoin, parce que si on doit payer tout le monde, je le rappelle que c'est quand même 200 bénévoles, vos inscriptions, elles sont plus à 800 euros, je pense, qu'en dessous des 100. Et nous, le problème qu'on a des fois sur la sécurité, c'est pas les voitures qui viennent en face, c'est les voitures qui sont dans le même sens et qui roulent moins vite que les cyclistes. Et en fait, on a tout ça qui fait que c'est quelque chose de très difficile, mais ce qui est génial, c'est par exemple à Lourdes, où dans les Alpes ou même en Alsace, j'arrive à me rapprocher d'associations spécialisées. Je pense maintenant à Christophe Tullier, qui travaille sur toutes les épreuves dans les Alpes, et Bannir Assistance à Lourdes. En fait, ce sont des associations professionnelles de sécurité, effectivement, que nous payons en tant que prestataire extérieur pour gérer tout ce qui est carrefour vraiment très compliqué avec beaucoup de monde. Et ils arrivent vraiment avec un package. Donc, ça fait partie de notre défi. Et en fait, par exemple, je cite maintenant mon papa que je mets dans les carrefours les plus durs de chaque course. Vraiment, le truc le plus complexe, c'est mon père. Et du coup, lui va aussi prendre sous son aile des nouveaux bénévoles, en fait. Souvent, plutôt des jeunes. On essaie plutôt de mettre les jeunes là-dessus par rapport au dynamisme et par rapport aussi au fait qu'il fait parfois 40 degrés en plein cagnard. Et n'oublions pas que ces bénévoles sont parfois jusqu'à 6 heures sur le même rond-point. Mmh. Et on les forme. Voilà, on leur explique, on anticipe. Et pareil, on revient pareil sur le maillot vert. On le voit très, très loin. Ah, on va tout de suite bloquer la voiture. Et du coup, mais ça, c'est vraiment une grosse difficulté parce que pareil, mes parents vieillissent. Mes amis, les parents de mes amis vieillissent et on va arriver dans quelque chose qui va être très très compliqué. Je travaille un peu avec des écoles du management du sport pour faire du bénévolat. Mais même là, c'est difficile. Et parfois, c'est ce que je dis, hein. Nous, en tant qu'organisateur, on a des courses locales. On est le week-end avec un panneau. Je le suis moi-même régulièrement avec un panneau parce qu'il faut aider les organisations là-dessus. Et ça va être un des points les plus compliqués. J'ai de la chance, hein. Je touche du bois. Je suis vraiment super bien entouré. Et puis, je leur fais vraiment un bisou à tous. Mais c'est vrai que c'est un point qui est délicat. Et pareil, pour l'accueil d'un cycliste, si quelqu'un n'a pas le sourire en vous donnant un dossard, t'as pas envie de retourner non plus.
Donc c'est... Ouais, c'est sûr. Bah après, comme tu le dis, après, c'est aussi un peu générationnel. Et puis, c'est vrai que les anciennes générations, enfin, anciennes ou pas forcément, mais ont été habituées aussi à... Bah déjà, il y avait moins tout ce qui était rapport aux réseaux sociaux, etc. C'était plus... dans l'action, plus sur le terrain, un peu moins dans le paraître, voilà, d'être dans quelque chose où on va un peu plus aider, il y a un peu plus ces actions qui se font facilement au niveau voilà, associatif, bénévole. Maintenant, c'est un petit peu moins dans, on va dire, dans l'air du temps d'aller vers ces actions-là.
Donc, un appel juste par rapport à ça, c'est vrai que on a souvent des gens qui viennent, et d'ailleurs je commence à avoir de plus en plus de conjointes ou de conjoints de participants ou participantes, hein, parce qu'on a vraiment les deux versions maintenant, et de plus en plus de femmes. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent les gens s'ennuient au bord de la route, ils attendent leur mari jusqu'à parfois 8 heures, hein, parce que sur un parcours en Alsace, ça peut aller jusqu'à 8 heures, sinon on ferme le parcours. Et du coup, c'est des gens, ils reviennent chaque année, ils viennent nous filer un coup de main. Et pareil pour les clubs qui nous aident, nous on leur reverse aussi quelque chose financier. Et je connais moi-même la difficulté d'aller chercher des sponsors ou des choses pour les clubs. Et là effectivement c'est une mise à disposition et ça permet nous aussi de soutenir le cycliste en local. Et en fait je pense que pareil, quand on fait du vélo, on doit se dire tiens à un moment donné, est-ce que je peux donner de mon temps là ou est-ce que je peux par exemple en parler pour que ça reste effectivement toujours accessible. Mais pour l'instant ça se passe bien, mais c'est effectivement comme je disais, ça risque de sentir le roussi d'ici quelques temps, ouais.
Ok. Bon, en tout cas, ce qu'on retient, c'est que avec toutes tes équipes, tu mets quand même en place des choses pour que ces bénévoles-là aient aussi, ça soit aussi un moment de plaisir sur ces week-ends-là, qu'ils puissent se retrouver. Et puis voilà, il y a des gens aussi qui prennent du plaisir autre que dans se taper 4000 mètres de dénivelé et de finir complètement cuit. Donc, je pense que ça peut convenir aussi à pas mal de personnes et aussi de faire des connaissances, voilà, de se faire des contacts.
On a des amis maintenant de partout. J'ai un ami de Paris qui, pareil, vient avec sa femme à Cannes et avec un ami motard, etc. Enfin, il y a des liens qui se créent. Et en fait, ça devient un vrai réseau social mais sur place, quoi. Ouais, ouais. Des vraies amitiés et non, c'est enfin voilà, on a de belles histoires en tout cas.
Ok, top. Écoute, on va se pencher sur le dernier point parce que le temps passe. Moi, je voulais juste, voilà, t'as un parcours et t'as une croissance qui est belle et franchement, je te félicite de tout ce chemin parcouru. C'est quoi les projections, on va dire, à court, moyen et long terme? Est-ce que t'as déjà un petit peu des envies sur un nombre d'épreuves, sur des lieux où t'aimerais aller, sur peut-être d'autres projets que t'aimerais mettre en place dans le milieu, dans l'organisation ou dans autre chose? Voilà, dis-nous en plus.
Du coup, par rapport à nos projections, en fait, c'est déjà pérenniser nos épreuves. Et voilà, j'ai aussi un petit peu en exclusivité le fait de vous dire qu'on a re-signé avec les Pyrénées jusqu'en 2027 et pareil à Vaujany, parce qu'on a vraiment une grosse confiance qui s'est liée avec cette station, hein. Et pareil sur d'autres événements, donc on a vraiment une pérennité en fait sur nos événements, ça va être le numéro un, les faire évoluer, les rendre viables aussi, hein, parce que qu'on soit effectivement dans l'aspect associatif, dans un club ou même côté business, entrepreneur, à un moment donné, tu veux organiser des choses, il faut rentrer de l'argent. Donc, il faut aussi pérenniser. On a de la chance d'avoir des événements qui tournent très bien et qui, effectivement, grâce aux autres, on arrive à trouver quand même un équilibre. C'est pas toujours gagné parce que c'est très difficile. On a eu des augmentations cette année qui sont assez incroyables qu'on s'est pris. Mais voilà, c'est effectivement pérenniser ce qu'on a déjà. Le but, en fait, c'est d'ici quelques années, en avoir 10, clairement. pas forcément tout en France. On a quelques contacts un peu à l'étranger, mais toujours proche de la France, sur des coins magnifiques. Ça, c'est vraiment ma vision des choses. Actuellement, on est une petite équipe, hein, sur cet événement. Bah, ceux qui sont organisateurs, s'en rendent bien compte aussi. On est 3 à temps plein. À travailler sur ces projets-là. Donc parfois, on est aussi un petit peu dépassé par les événements. Donc on se concentre toujours sur la priorité qui est organiser nos événements GFNY, accueillir au mieux les cyclistes qui sont inscrits. Ça, c'est vraiment notre projection. Parce qu'on a d'autres aspects, hein, les réseaux sociaux, la communication qui prend un temps énorme. Parce que les cyclosportifs, c'est aussi beaucoup de com', hein. Faut montrer aux gens qu'on existe, montrer ce qu'on fait, donner envie aux gens de venir. Mais en tout cas, voilà, on se diversifie aussi sur le fait que je souhaiterais organiser d'autres événements jusqu'à 10. Pareil, là, nous allons aider aussi à l'organisation. Ben, on le fait aussi de manière bénévole pour les clubs, hein, qui organisent des courses cadets, des courses juniors. On est aussi présent à leur côté, on leur prête du matériel. En échange, eux viennent avec des bénévoles. Donc, c'est aussi voilà une affaire d'échange de bon sens par rapport à ça. Et mes projections aussi, c'est qu'on va développer également un service d'aide aux autres organisateurs. Donc voilà, par exemple, quelqu'un qui veut se lancer, quelqu'un qui a besoin de conseils, quelqu'un qui a besoin de matériel, parce que j'ai de la chance maintenant d'être relativement bien équipé, et mettre de la relation parfois aussi avec les bénévoles, c'est des choses que vraiment qui me tiennent à cœur à mettre en place. C'est des choses qu'on mettra plus facilement en place en 2025, même si cette année, je vais lancer un projet avec les championnats de France de l'avenir qui sont organisés en Alsace cette année. Donc, on va organiser une rando que j'ai pris en main justement pour cette organisation-là, et c'est aider les autres organisations. Donc, en fait, c'est rendre viable vraiment mes épreuves jusqu'à 10, créer vraiment une belle structure autour de ça, toujours dans l'esprit qualitatif et dans le même esprit qu'actuellement, et pouvoir apporter un plus en termes de location de matériel, d'apporter un plus en termes d'expertise, même si j'ai pas forcément une expérience de 20 ans, mais comme je me suis fait un peu tout seul, ben du coup j'ai peut-être des réflexes maintenant que de nouveaux organisateurs n'ont pas forcément. Et je vois aussi maintenant des jeunes organisateurs se lancer. Donc voilà, on aimerait aussi pouvoir mettre nos compétences à leur service. Voilà, donc c'est un petit peu mes projections. Mais maintenant, tout de suite, c'est accueillir tous nos cyclistes du mieux que possible pour cette année 2024. En sachant que bah, par rapport aux 30 événements qu'on a dans le monde de GFNY, bah, la plus belle organisation mondiale, c'était Grand Ballon. Donc ça fait 2 années de suite qu'on a nos épreuves françaises qui sont élues par les cyclistes. Hein. C'est vraiment les participants qui répondent au questionnaire de satisfaction à la fin des événements. Bah, ça fait 2 années de suite. L'année dernière, c'était Alpes-Vosgiani. Maintenant, c'est Grand Ballon. Donc ça montre aussi que les gens aiment nos événements, mais on a encore beaucoup à progresser parce que grâce à ça, on les écoute. Les gens peuvent aussi mettre leur point de vue, qu'est-ce qu'ils aimeraient améliorer. Je lis tout dans le détail et justement, on améliore d'année en année pour être un leader des organisations cyclosportives, mais toujours avec cette envie aussi d'amener une expérience, d'aider les autres, parce que je pense qu'on a un pays où on peut faire de magnifiques épreuves et amateurs en plus. Hein. Donc voilà mes projections.
Super. Une course par étape un jour, Cédric.
Ah oui, c'est dans le tuyau, ça. C'est dans la to-do list.
Au moins 2 jours, franchement. Juste un week-end en partant du même endroit, course par étapes, ça serait, c'est trop bonheur. Deux fois 4000 mètres de dénivelé, et voilà, on n'en parle plus.
Voilà, puis on n'en parle plus, quoi. Ouais, puis dans les projections de développement, en fait, j'ai ça. Ça, c'est clairement quelque chose que je réfléchis parce que ça m'intéresse. Hein. Et j'étais un bon coureur par étapes, en plus, à l'époque. Après, le point le plus compliqué là-dedans, je reviens, c'est l'organisation bénévole. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut les mettre 2 jours. On a, voilà, c'est on va dire qu'il bloque un petit peu. Mais je sais, par exemple, qu'une station comme Vosgiani est tout à fait ouverte à pouvoir l'organiser. Nous, c'est plus après fonctionnel. Est-ce qu'on peut le mettre en place en 2025? On le saura effectivement bientôt. Et autre chose, j'aimerais pouvoir proposer une course plus accessible aussi, un peu comme Cannes, avec un peu plus de kilomètres, mais peut-être pas dépasser les 1005 de D+. Et je pense que ça ferait plaisir
à peu. Course ouverte, quoi, un peu plus course découverte pour ceux qui sont pas forcément trop entraînés et qui veulent pas forcément souffrir à défoncer sur 3000 mètres, quoi.
Ouais, c'est ça, mais pareil, sur une course plate, ça peut être facile à organiser sur le papier, mais vous savez, quand on organise une course en montagne, c'est génial, il y a les petits paquets qui se forment un peu partout, chacun a sa place, machin, mais sur une course plate, en fait, c'est, je le vois à Cannes, hein, c'est encore un sacré paquet, vraiment un bon bout de temps, il y a sécurisé, mon Dieu, je fais un arrêt cardiaque tous les kilomètres.
Ouais, et puis Là, après, c'est vrai que la sécurité, les compétences, enfin, les niveaux techniques de chacun sont tellement dans ces pelotons, enfin, il n'y a rien d'homogène, quoi. Donc, c'est vrai que ça devient très dangereux. C'est un petit peu le problème. Sauf
C'est
s'il y a
ça.
un peu une sélection déjà, une segmentation qui peut se faire. Mais
Non, mais là.
voilà, tu vois, je veux dire, bah, franchement, je pense qu'il m'en voudra pas, mais Nicolas, c'est une très belle épreuve. Mais par contre, je veux dire, il y a 4500. Aujourd'hui, sur une épreuve comme ça, qu'il n'y ait pas des départs par sas de niveau, sur un départ comme ça, mais c'est juste, c'est, enfin, on peut pas faire ça. Et alors, enfin là, c'était un pic gratuit, mais d'ailleurs, je m'en excuse, mais il n'y a pas que lui. Mais voilà, maintenant, je vois bah, la Corima mettre en place des sas entre ceux qui vont faire 38 km/h, ceux qui vont faire 32. Voilà, après, je vais dire, ben, comme dans beaucoup d'organisations, si on regarde en Italie ou autre, il y a des sas qui sont faits par vitesse. Alors après, c'est pas forcément tout le temps respecté, mais ça aide déjà, quoi.
Avec les sas, donc nous pareil, on a un sas devant où on en met 100 à 150 suivant les événements. Puis un outil qui est fantastique aussi, c'est Otacam maintenant. Il suffit de taper le nom de la personne, on sait un peu où il se situe. Je regarde beaucoup les classements aussi, et pareil, par contre, j'ai des demandes parfois de sas prioritaires. Ouais, je peux pas les accepter toutes, mais et c'est aussi un des faits que pour cette année encore, on a limité la participation, donc on va clôturer les inscriptions là à Cannes très vite.
Mais c'est trop dangereux. Et
Trop, trop
surtout,
dangereux.
comme tu dis, je veux dire, en 2024, il y a tellement de choses qui permettent déjà de faire enfin voilà, de faire un pré-travail sur qui peut aller dans le premier sas, qui peut aller dans le deuxième ou le troisième. Là, tu parlais d'Otacam, il y a GFR Rank aussi, là. C'est pas
Oui.
compliqué. Je veux dire, voilà, c'est pas compliqué
Suivre les classements des autres.
Classer un petit peu, de classer un petit peu les gens, ceux qui n'ont jamais fait d'épreuve, et ben voilà, il faut déjà qu'ils aient fait une épreuve cyclo pour avoir une référence, et puis sinon ils sont dans un sas un peu
Le
derrière.
temps, il est pris sur la puce. Donc même si tu, on voit nous après derrière les
Oui,
temps
exactement, ouais,
de
exactement, ouais.
moyenne, on voit bien les choses. Mais pareil, chez nous, on a un système de qualification. Tous les top 10 des catégories sont qualifiés d'office, en fait, suivant les catégories, etc. Donc, il y a aussi une sélection qui se fait un peu naturelle chez nous et qui sera de plus en plus fiable. Mais c'est vraiment un débat, ouais, parce que les gros pelotons comme ça, c'est, et même pour nos organisateurs, c'est.
Ah, c'est super dangereux. C'est déjà, ça réduit l'expérience. Enfin, ça fait une mauvaise expérience client. Ça, clairement,
Clairement.
parce que voilà. Et puis en plus, quand on vient faire une course, peu importe à quel niveau on évolue, mais c'est assez cool si on peut déjà se retrouver. Il n'y a pas un biais, quoi. On peut se retrouver à jouer avec les gens avec qui on doit jouer, quoi, sans avoir à aller se mettre dans un sas. Une heure avant, c'est des choses, c'est un petit peu ridicule. Après, c'est là où aussi on voit un peu la bêtise humaine de ceux qui font une course à 24 de moyenne et qui viennent se mettre première ligne. Voilà. Mais bon, c'est un peu comme ça. On va,
C'est
on changera. On
beaucoup plus
changera. Ouais, on changera pas tout ce soir.
C'est clair.
Écoute, on a
Merci.
une heure de podcast. Merci beaucoup, Cédric. Je pense que c'était une discussion qui était très intéressante et qui sera intéressante à écouter, en tout cas je l'espère. Moi j'invite vraiment les gens à venir sur tes épreuves, celles que j'ai fait, bon, j'en ai fait qu'une d'ailleurs pour le moment avec toi, là celle de l'année dernière à Villard de Lans, où je vais retourner d'ailleurs cette année aussi. Le parcours est vraiment super, très bien organisé, le sourire, enfin voilà, c'était vraiment une très très bonne expérience, et d'ailleurs on sera plusieurs du RCS à venir sur cette épreuve.
D'ailleurs,
Donc voilà, on te souhaite tout le meilleur pour cette année
merci
2024. Et puis
pour cette belle année sportive, et puis on aura le plaisir de se recroiser sur la route, en tout cas.
exactement, avec le maillot GFNY, bien sûr. Parce
Voilà,
qu'il est beau. Parce qu'il est beau quand même,
celui-là, il est, ça va, il s'est
on a
bien épuré, en tout cas, par
dit.
rapport à d'autres. En tout
Super,
cas,
merci. Merci
merci
beaucoup
pour l'invitation.
à Cédric. À très vite.
À très vite, merci.